Gérard de Nerval, Histoire véridique du canard. Il ne s'agit point du canard privé, ni même du canard sauvage. Cela n'intéresse que M. de Buffon et M. Givaud de la Reynière. Notre siècle en connaît d'autres, que l'on ne consomme et que l'on ne dévore que par les yeux ou par les oreilles, qui n'en sont pas moins l'aliment quotidien d'une foule d'honnêtes gens. Le canard est né rue de Jérusalem. Il s'élance chaque matin des bureaux de feu M. Rossignol et prend sa volée sur la capitale sous la forme légère d'un carré de papier grisâtre. Voilà ce qui vient de paraître tout à l'heure. Entendez-vous, s'écrie Roque, qui ferme l'air des oreilles. Reconnaissez-vous ces bipèdes aux pas tortueux qui suivent le long des rues la ligne du ruisseau? Voici l'origine du nom. Sachons d'apprécier la chose. Le canard est une nouvelle, quelquefois vraie, toujours exagérée, souvent fausse. Ce sont les détails d'un horrible assassinat, illustré parfois de gravures sur bois d'un style naïf. C'est un désastre, un phénomène, une aventure extraordinaire. On paye 5 centimes et on est volé. Heureux encore, ce dont l'esprit plus simple peut conserver l'illusion. Le canard remonte à la plus haute antiquité. Il est la clé de l'hiéroglyphe, le verbe de ces phrases énigmatiques. Les histoires de tous les peuples ont commencé par des canards. Le canard est la base des religions. Les anciens nous ont délégué de sublimes. Nous en transmettrons encore de fort beaux à nos neveux. Hérodote et Pline sont inimitables sur ce point. L'un a inventé des hommes sans tête. L'autre a vu des hommes à queue. Et selon Fourier, l'homme parfait aura une trompe. Laissons de côté la mythologie. Nous devons à l'écriture l'ixion et le griffon. Voltaire n'a jamais pu réussir à se représenter l'ixion, dont la chair était défendue aux Hébreux. Mais les géologues modernes ont donné raison à la Bible. Le Loptotherium, le mammouth, le dinotherium, toute la race des sauriens qui, selon Cuvier, peuplait avant le déluge la vallée même de Paris, valaient bien, certes, les aimables créatures constatées, contestées à Dieu par Voltaire. Ceci est le canard fossile, protégé par la science, et qui a encore un bel avenir. Les vieux savants avaient été moins loin en nous pléguant le célèbre Homo dilui testis, l'homme témoin du déluge, et les eaux gigantesques du roi Teutobochus. Mais qui égalera jamais l'histoire du poisson évêque, pêché dans la Baltique et qui fut présenté au pape et lui parla en latin? Les navigateurs antérieurs au XVIe siècle en ont rapporté d'autres, sans compter l'Eldorado, le poisson Kraken, qu'on prenait pour une île flottante, le vaisseau fantôme, le dragon de Rhodes et le serpent de mer, tel qu'il a été vu par M. Jacques Arago. Que ce dernier, le roi des canards, nous servent de transition pour arriver au temps moderne. Il fut encore une époque où les journaux n'étaient pas inventés, que l'on trouve déjà la poudre et l'imprimerie. Alors le canard tenait lieu de journaux. La politique avait peu d'intérêt pour les habitants des villages et des campagnes. l'hydre de l'anarchie, le vaisseau de l'État, l'ouragan populaire, n'eurent pas été capables d'émouvoir ces auditions, ces auditeurs, ces attentions ignorantes. Non, elles se portaient plus appréciablement sur des fictions moins académiques, le loup-garou, le moine bourru, la bête du Gévaudan. Tels étaient les sujets principaux que la gravure, la légende et la complainte se recherchaient d'immortaliser. Ceci est du Louis XV, mais déjà, Sieur Renaudot avait fondé la Gazette de France, et le Sieur Viset, le Mercure Galant. Le canard allait avoir un domicile fixe. Le journalisme était créé. Le premier canard répandu par les journaux a été la dent d'or. Un enfant était né avec une dent d'or. Le fait fut constaté, prouvé et étudié par les académies. On publia des mémoires pour et contre. Plus tard, il fut reconnu que la dent était seulement piquée, plaquée. Mais personne ne voulut croire à cette explication. Il y eut encore l'accouchement phénoménal d'une comtesse de Hollande, mère de 100 enfants, qui furent tous baptisés. Les journaux officiels s'augmentèrent peu pendant le XVIIe siècle. Le journal de Trévoux, le journal des savants, se met encore force canard scientifique dans la société d'alors. Les mémoires secrets de Collet et le recueil de Beauchamon ne négligeaient pas non plus ce sous-genre intéressant. La Révolution avait le culte du vrai. Le canard était dangereux à cette époque. On le garda pour des temps meilleurs. L'Europe en avait beaucoup connu, des canards, le long des temples de Karnak, sur les obélisques et généralement dans les pays étrangers. La grande armée en rapportait quelquefois dans ses foyers, mais on admettait extrêmement peu dans ses lectures. Il était donné à la Restauration de réinstaller le canard dans la publicité parisienne. Le premier et le plus beau après 1814 fut la femme à la tête de mort. Cette créature bizarre avait du reste un corps superbe et 2 ou 3 millions de dots. Les journaux donnaient son adresse, mais elle ne recevait pas. On se tuait à sa porte, on soupirait sous ses fenêtres. On attaquait en vers et en prose sa vertu et ses millions. Plusieurs devinrent sérieusement amoureux de la dame et demandèrent 100 dots pour elle-même. Un Anglais l'enleva enfin et fut très désappointé de trouver, au lieu d'une tête de mort, une figure assez jolie et qui avait spéculé sur la réputation de laideur pour se faire trouver charmante. Oh, illusion! Qui se souvient encore de l'invalide à la tête de bois? Les journaux se multiplièrent. Le journal s'agrandit. Le constitutionnel, le courrier et les débats étaient encore bien petits, cependant. Mais dans l'intervalle des sessions, durant les longs mois des vacances politiques et juridiciaires, ils sentirent le besoin de donner à la curiosité un aliment capable de soutenir l'abonnement compris et compromis. Ce fut alors que l'on vit reparaître triomphalement le grand serpent de mer oublié depuis le Moyen-Âge et les voyages de Marco Polo, auquel on ne tarda pas à joindre la grande et véritable araignée de mer qui tendait s'étoile au vaisseau, et dont un lieutenant portugais coupa vaillamment à coups de hache une patte monstrueuse qui fut rapportée à Lisbonne. Ajoutez à cela une collection intéressante de centenaires et de bicentenaires de veaux à deux têtes, d'accouchements bizarres et autres cantons des petits plours. Quelques-uns avaient une teinte politique. Tel était le bateau sous-marin destiné à tirer Napoléon de son île. Puis le soldat de l'Empire échappé de la Sibérie qui se mettait en marche généralement vers le mois de septembre. D'autres avaient rapport aux arts ou à la science. Ainsi l'araignée dilettante, les pluies de tétards, un Anglais couvant des œufs de canard, par attention pour la mer, le crapaud trouvé dans un mur bâti depuis plusieurs siècles, et autres qui ont fait le charme de notre enfance constitutionnelle. N'oublions pas que les journaux n'avaient alors que deux colonnes. Leur agrandissement fut marqué presque à la fois par les histoires de Clara Wicklin, de Gaspard Hauser et du brigand Chouri. On ne pouvait aller plus haut en fait d'intérêt sérieux. Notez que jusqu'alors, tout le monde croyait au canard, même celui qui l'écrivait. Le premier qui inventa le canard ironique fut un ennemi des portiers. Il paraît avoir eu à se plaindre d'un de ses factionnaires. Sa vengeance fut atroce. Il déposa la note suivante dans le boîte d'un journal. Un ébéniste du faubourg Saint-Antoine, en débitant un bloc d'acajou, a trouvé dans l'intérieur un espace vide, occupé par un serpent qui paraissait engourdi et qu'il est parvenu à ranimer. Le serpent est donc d'acajou, et le tronc, ils sont visibles tous les deux, rue de la Roquette, numéro. Le concierge de la maison se fera un vrai plaisir de les montrer aux curieux. Cette mystification, renouvelée depuis sous d'autres formes, eut des suites terribles. Le portier, ahuri par l'insistance quotidienne des visiteurs, et surtout des quelques Anglais qui le soupçonnaient de leur cacher le serpent par un sentiment de haine nationale, finit, dit-on, par attenter à ses jours. Nous avons fait successivement la connaissance avec la négresse Cécilie, rivale de Mademoiselle Mars dans la comédie, la femme corsaire, la chute des rochers du Niagara, les habitants de la Lune, la découverte à Névrac des bas-reliefs de Tétricus, roi des Gaules. Ces derniers, qui furent le sujet d'une foule de dissertations académiques, étaient, comme on sait, l'ouvrage d'un vitrier gascon qui les avait enterrés et qui se fit connaître quand l'Institut se fut prononcé favorablement sur l'antiquité de ces morceaux. Le canard fut souvent un moyen ministériel pour détourner l'attention d'une question compromettante ou d'un budget monstrueux. Vous voyez que cela continue à tourner dans le cercle des mystifications. Sous ce rapport, la province semble un instant détrôner Paris. Le sémaphore de Marseille inventa les corsaires du Rhône. Ces forbans venus de la Méditerranée avaient pu remonter jusqu'à Beaucaire et avaient enlevé toutes les vierges de la ville pour le service du pacha de Négrepont. C'était l'époque des orientales de Victor Hugo. Et Paris fut épouvanté. Le ministre de l'Intérieur écrivit à Nîmes. Il réprimanda le préfet qui écrivit à son tour au procureur du roi de Tarascon, lui demandant ce qu'il faisait en présence de tels événements. Ce dernier se transporta sur les lieux en traversant le Rhône, apprit la fausseté de la nouvelle et répondit que jamais corsaire n'avait osé enlever des vierges à Beaucaire, et même qu'on doutait qu'il y en eût. Le préfet se hâta de rassurer Paris. Il ne sentait pas plus grande sur les nouvelles de Sémaphore. C'est à Mairie qu'il faut entendre raconter l'histoire du duel de Max Creati et du Bulli, deux illustres savants italiens qui sont maintenant dans toutes les biographies et n'ont jamais existé, et celle de l'orpheline Julia, qui, il y a quelques mois, tint Paris en haleine et l'univers en émoi. Dans l'immense Oax méridional, toute une province fut complice de son journal favori. Les Marseillais de Paris s'entendaient pour nous mystifier, et les autres écrivaient lettre sur lettre pour ajouter à notre anxiété. On sait qu'il avait été constaté à Marseille, par un congrès de savants, que Julia ne parlait aucune langue connue. Mais voici où Paris reconquit sa supériorité. Vous dites, fut-il répondu aux descendants des Phocéens, que Julia ne parle aucune langue connue à Marseille, mais peut-être simplement qu'elle parle français. Le Sémaphore n'a point répliqué. Au fond, si quelquefois le canard naît dans la province, reconnaissons qu'il ne peut exister qu'à Paris. C'est de là qu'il part, c'est là qu'il revient, sous une forme nouvelle, après avoir fait le tour du monde. Mais ce qui est étrange, c'est que le canard, fruit de l'accouplement, du paradoxe et des fantaisies, finit toujours par se trouver vrai. Schiller a écrit que Colomb, ayant rêvé d'Amérique, Dieu avait fait sortir de ses eaux cette terre nouvelle, afin que le génie ne fût point convaincu de mensonge. Tout génie à part, on peut dire que l'homme n'invente rien qui ne se soit produit ou se produise dans les temps donnés. Un journal avait imaginé une petite fille qui portait inscrite autour de ses prunelles cette légende « Napoléon empereur ». Et 3 ans après, l'enfant était visible sur le boulevard. Nous l'avons vu. Gaspard Hauser, le brillant chevalier, sont devenus réels à force d'avoir été inventés. Les poètes anciens ont cru imaginer le dragon. Monsieur Brognard a y retrouvé des ossements à Montmartre et il l'appelle ptérodactyle. On croyait le dauphin fabuleux. Des naturalistes italiens viennent en retrouver un squelette entier dans une gorge des Apennins. On a douté de la sirène antique, et peu de gens savent qu'il en existe 3, conservés sous verre au Musée royal de La Haye, sous le numéro 449, et pêchés par les Hollandais dans les mers de Java. Vous verrez qu'à force de percer la nature avec des outils mulots, on découvrira dans son intérieur la planète Nazor, éclairé d'un soleil souterrain, magique, magnifique. canard inventé au XVIe siècle par Nicolas Clinus dans son Terre Subarneum. Après tout, cette planète Nassor existe sans doute et doit être tout bornement l'enfer. Mais Flamèche le sait mieux que nous. Ceci est un canard suprême. Il n'y a rien au-delà. Gérard de Nerval.